Amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous écoutez grâce à nos 52 radios partenaires et nos 7 télévisions partenaires, bonsoir et bienvenue au forum de ce soir. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour votre fidélité. Au Niger, l'ONG Oxfam met en œuvre plusieurs projets à travers des jeunes. Dans la région de Zender, on parle du projet intitulé JEEN, Jeunes entreprennent et s'emploient au Niger. Jeunes sahéliennes pour le climat, GESAC, dans la région de Dosso. Filles autonomisées, choix éclair face dans la région de Tillabéri et le projet inclut à travers lequel plusieurs études, forums et rencontres de partage avec la représentation nationale ont été réalisées. Confronté à des défis d'ordre sécuritaire dans les régions de Diffa et Tillabéri, le Niger est souvent classé par le programme des Nations Unies pour le développement comme étant un des pays les plus pauvres au monde. Le problème est incontestablement celui de l'emploi des jeunes. Au vu de l'ampleur de l'étendue du problème de l'emploi au Niger et plus généralement celui de l'épanouissement des jeunes, une politique nationale en faveur des jeunes dénommée « Politique nationale de la jeunesse » a été mise en œuvre par l'État nigérien pour la période de 2016 à 2020. La prise en compte des perspectives de la jeunesse dans les politiques publiques, c'est le thème du forum de ce soir. Et pour en parler, quoi de plus normal d'avoir des experts autour de moi ? Nous avions M. Garba Abdoulaye. Il est coordonnateur de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ. Nous avions également Mme Mariam Oumar, directrice régionale de la jeunesse et du sport. Abdou Zeidou Sanoussi Abdoulaziz, directeur exécutif du MOJEDEC, un mouvement qui milite en faveur des jeunes. On aura l'occasion de découvrir ce mouvement. Et enfin, nous avions parmi nous Mademoiselle Tanimoun Ali Yerima, elle est présidente nationale du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Bonsoir et bienvenue au forum de ce soir. Nous allons commencer ce soir notre débat avec cette première question que je m'en vais directement vous poser, Monsieur Garba Abdoulaye. Au Niger, comment les jeunes conçoivent les actions politiques qui sont menées à leur endroit, justement les politiques publiques mises en œuvre à leur endroit?
Effectivement, la CAPEJ, au cabinet du Premier ministre, on a réalisé une étude sur la perception des jeunes et l'efficacité des politiques publiques au Niger. Et il y a plusieurs aspects sur c'est quoi être jeune, c'est quoi les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à ces jeunes et c'est quoi les recommandations de leur point de vue. Parce que nous, notre rôle à la CAPEJ, c'est la seule structure de l'État qui est payée pour critiquer ce que l'État fait, c'est-à-dire aller prendre, faire le diagnostic, c'est-à-dire pour ramener à l'État pour pouvoir influencer les politiques publiques dans la façon de les mettre en œuvre. Et le ressort de cette étude que vous avez deux types de perception des politiques publiques. C'est-à-dire d'emblée, les jeunes vont te dire que nous ne sommes pas contents, c'est-à-dire des politiques publiques telles qu'elles sont. Et si vous allez lire l'étude, vous allez trouver des localités où vous avez une école, un commissariat, une gendarmerie, un centre de santé.
Juste une localité équipée.
Voilà. Mais les jeunes vont vous dire que l'État est absent. En fait, il faut le comprendre. Eux, ils analysent l'État sous l'angle des opportunités pour qu'il s'insère dans la vie socio-économique. Donc, même si la présence de l'État sous les autres formes est là, tant que les politiques publiques ne leur permettent pas de trouver l'emploi auquel vous faites allusion, ou bien créer eux-mêmes leur propre emploi.
Pour eux, l'État n'existe pas.
Pour eux, l'État est absent, c'est-à-dire pour les accompagner dans ce sens-là.
On va revenir là-dessus. Alors, madame, je me tourne vers vous. Vous qui êtes directrice régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui a conduit l'État à la mise en place de la politique nationale de la jeunesse?
Merci de nous avoir invités aussi à ce forum. On remercie le studio Kalangu. Le ministère avait mené une étude sur les aspirations et les besoins des jeunes. Et ils ont compris que les jeunes, ils ont plusieurs besoins. Ils aspirent à plusieurs choses. Et pour ça, il faut concrétiser. Et pour concrétiser et pour prendre en charge leurs besoins, il faut qu'il y ait une politique. Et c'est partant de cela que le ministère a mis en place une politique et qui a commencé, c'est une politique qui prend en charge les questions des jeunes. Ça veut dire autour des axes ou des programmes stratégiques pour pouvoir venir à bout, peut-être pas de tous les problèmes des jeunes et besoins, mais quand même donner des réponses aux attentes de ces jeunes. Et c'est dans ce sens qu'il a été créé une politique de la jeunesse.
Alors, je continue avec vous. Que contient réellement cette politique?
Au fait, la politique nationale, cette politique, par exemple, nous sommes au niveau de l'acte, comme ils l'ont dit, il y a une politique qui a été mise en œuvre, elle a été mise en œuvre pour, jusqu'en 2020, mais il y a une nouvelle politique qu'on est en train d'actualiser et qu'on est en train de vouloir partager et vulgariser. Et dans cette politique, elle contient 6 programmes stratégiques. Et dans ces 6 programmes...
De la nouvelle, donc.
De la nouvelle. Mmh. Et dans les 6, parce que l'ancien avait les 4 axes. Maintenant, la nouvelle, c'est 6. Et dans les 6 programmes stratégiques, il y a le 5e programme, c'est la prise en charge, c'est-à-dire l'intégration des perspectives des jeunes dans les politiques qui sont publiques et à tous les niveaux. C'est pour dire que dans cette politique, il y a même un programme spécifique qui va prendre en charge ces perspectives des jeunes dans les politiques nationales.
Est-ce que ceci, on peut dire, est inspiré des travaux de la CAPES qui est là ce soir ?
Travaux de la CAPES, mais je me dis que des travaux, de plusieurs travaux de et plusieurs études, travaux. Et aussi peut-être de tout ce que les jeunes, ça veut dire que ce qu'on reçoit des jeunes comme besoin à chaque rencontre, et il y a des associations de jeunes avec lesquelles nous travaillons, et à chaque rencontre, ils sont associés, et à chaque fois, ils font des recommandations, comme l'a dit monsieur de la CAPES, ils disent que parfois, eux, ils ne sentent pas la présence du gouvernement.
Alors, chez nous, on dit, tant qu'on doit parler de quelqu'un et la personne est là, on donne la parole à cette personne-là. Oui. Alors, comme il y a des jeunes parmi nous ce soir, je me tourne vers toi, Nana Fidaoussi. Quand aujourd'hui, vous écoutez la CAPES, vous écoutez l'État représenté ici par le ministère de la Jeunesse, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'enfin, vos propositions seront prises en compte et seront intégrées dans la nouvelle politique de l'État à l'endroit des jeunes?
Merci beaucoup Olivier et merci beaucoup Studio Kalangou. Je suis ravie d'être sur ce forum et d'avoir l'occasion d'enfin connaître la CAPES et aussi le ministère de la Jeunesse. Quand je les écoute, je suis contente parce que je me dis que enfin le problème des jeunes, pas tous les problèmes, mais quelques-uns de ces problèmes vont être résolus avec l'aide des uns et des autres. Vous en faites bien, mais pas assez. 2017-2020, c'est beaucoup, c'est bien. Mais là, la jeunesse est dans un autre monde, dans un autre axe. Ouais. La jeunesse d'aujourd'hui aspire à autre chose, à beaucoup plus. Nous avons tellement de besoins, nous voulons tellement être écoutés, c'est énorme. Vous avez parlé de six axes. Parmi ces axes, j'aimerais savoir, impliquez-vous les jeunes dans votre... de la mise en œuvre de ces axes, si la suggestion, si vous écoutez les jeunes, si les jeunes participent aux prises de décision. Parce que je me dis que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les jeunes sans pour autant impliquer les jeunes.
Je vais te prêter ma parole, mais ce n'est pas moi qui va parler. C'est plutôt mon ami de Mojedec. Comme vient de le dire la sœur, une chose est de prendre en compte les aspirations des jeunes pour la mise en place de la politique nationale, la nouvelle politique nationale des jeunes qui sera mise en place. Et une chose est de les associer au déploiement de cette politique. Vous, qu'en pensez-vous?
Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, pour ce qui est de la politique nationale de la jeunesse en elle-même, pour moi, cette politique doit interpeller tout le monde. Parce que depuis plusieurs années, à chaque fois, on nous dit qu'on est en train de la réactualiser. On est en train de la réactualiser. C'est un document qui a du mal à finir. J'ai l'impression qu'on a plus le goût à la réécriture du projet que sa mise en œuvre. La deuxième chose, c'est qu'au niveau même de cette réactualisation, vous ne sentez pas une implication, une concertation, une consultation des jeunes, des organisations des jeunes et tout, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Quand l'étude sur les besoins et aspirations des jeunes a été faite par le CAPES et la CAPES et l'UNICEF, c'était très participatif. C'était des focus group dans des quartiers. On a consulté les jeunes, mais on a consulté les moins jeunes, les plus jeunes et tout ça pour demander leurs avis, leurs contributions, leurs perceptions. Mais pour moi, sur cette étude-là, c'est quelque chose de très minime par rapport à la politique nationale de la jeunesse, qui malheureusement, maintenant, dans la forme qu'on est en train de dire, parce que moi je viens de l'apprendre, que c'est en train d'être réactualisé actuellement. Donc là, pour moi, c'est comme
on
si
on est en train de l'implication
on est en train de faire ça avec entre les agents du ministère avec certainement aussi il y a quelque chose avec aussi certains mamies et papis des jeunes qui sont qui se disent représenter les jeunes qu'il faut tenir compte aussi.
On peut pas dire ça, mais comme le ministère est représenté, on donnera la chance. Ou bien l'attentif veut dire toi réagir.
Oui, je veux juste. Non, en fait, je voulais juste réagir par rapport aux deux intervenants, aux deux derniers intervenants. Pour l'actualisation de la politique, les jeunes ont été associés. J'étais parmi les membres, peut-être les participants du ministère, mais on avait amené des jeunes. Le conseil régional, même si le conseil national, même s'il a dépassé le mandat, il est toujours là. Le conseil régional était là. Certaines associations des jeunes ont été invitées, ils ont été conviés. Et je vous assure, même dans les travaux qu'on a eu à faire, on a décidé que les présidents et les rapporteurs seront des jeunes. Ça veut dire qu'on a à Maradi impliquer ces jeunes. Et le même langage que vous avez tenu, ils l'ont tenu. Parce qu'ils nous ont dit, ils ont vraiment exprimé leur, je ne sais pas, amertume pour dire qu'on parle de politique, mais quand on veut faire de la politique, on a l'impression que c'est les personnes âgées qui font la politique.
Donc, madame, vous comprenez aujourd'hui que le problème est réel. Si on l'a dit sur le terrain et on le dit sur ce plateau, ça veut dire que le problème est réel.
Non, je n'en disconviens pas. Je ne dis pas que ce n'est pas réel. Mais je vous dis que pour la nouvelle, l'actualisation qu'on a eu à faire, on a tenu compte de ces jeunes-là parce qu'ils ont conduit même l'actualisation. Ils étaient les présidents. Et le débat, ils l'ont aussi conduit. Et maintenant, pour ce qui est du partage, ils seront conviés parce que bientôt, la région de Niamey va recevoir la mission. Et les jeunes, les associations des jeunes, en tout cas, ils seront le plus grand nombre de participants, ça sera les jeunes.
D'accord. Dans notre jargon, on dit c'est le wait and see. On va évoluer parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à vous poser, cher invité. Les études ont révélé que la politique nationale des jeunes est ignorée par la majorité des jeunes nigériens, notamment ceux des milieux ruraux. Et quand on suit ce débat de ce soir, on comprend que même dans la mise en œuvre, certains jeunes estiment qu'ils sont toujours très peu associés. Et pourtant, mention spéciale a été donnée au CAPEJ sur ce plateau et même dans la préparation de ce débat. Monsieur Gamar Abdoulaye, vous, quel est votre secret? Comment ça a été, comment vous l'avez conduit, votre étude, pour que cela puisse rentrer dans le cœur des gens jusqu'alors et on en parle toujours?
Merci beaucoup. En fait, ici, nous avons utilisé au niveau de la CAPEJ une méthodologie qu'on appelle la recherche action participative. Dans cette recherche-là, vous ne partez pas avec des guides ou des questionnaires. Vous créez les conditions pour que les gens débattent, qu'ils fassent eux-mêmes le diagnostic. Nous, quand on est allé, on n'a pas la question est-ce que le jeune a un problème ou non. C'est quoi être jeune? C'est des questions comme ça et on provoque le débat et on se retire. Les gens font le débat pour voir et c'est eux qui vont aller dire voilà c'est quoi être jeune. Et je profite de ça pour dire que comme ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait le diagnostic, on a remonté ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur perception. On ne peut pas dire que quelqu'un a raison quand il émet ses perceptions. On a remonté ça. Donc, c'est ça qui constitue l'étude. Et on a vu aussi les acteurs. Et je profite pour dire que, par exemple, la politique, elle était avancée lorsque l'étude était sortie. Et je profite de dire que c'est une étude de l'État maintenant. Parce qu'il y a une feuille de route suivie par le Premier ministre, par son excellence, le Premier ministre en personne. Et cette politique, c'est une des actions où le ministère de la Jeunesse est suivi pour l'actualisation. C'était par l'étude, l'actualisation était avancée, je crois. Mais lorsque l'étude était finalisée, on a vu qu'il y a des recommandations où il y a des enseignements. Ah, il faut reculer. Il y a des aspects qu'on a omis de prendre en compte. Tout ce qui est les questions de jeunesse, c'est quoi être jeune? En termes de politique publique, sur les conventions internationales, on dit le jeune, c'est de
15 à 35 ans.
Au Niger, personne n'était défini le jeune que par le prisme de l'âge. Il y a des communautés où tu peux être jeune, mais ton petit frère n'est plus jeune.
Parce qu'il est marié, peut-être.
Ou il est marié, ou bien il a l'esprit de responsabilité, ou bien il y a tous ces éléments-là. Donc, c'est cette amener les acteurs eux-mêmes à faire la consultation. Et vous parlez de la politique. Quand on parle de la politique, c'est le gouvernement. Mais l'étude, il ne faut pas que les jeunes oublient, ils ont leur propre responsabilité sur leur propre problème.
Nous allons parler justement de la responsabilité des jeunes, ne vous en faites pas.
Voilà, donc il y a cet aspect-là.
Madame, ça fait mal de savoir aujourd'hui qu'il y a une politique de l'État qui prend en compte les différents axes sur lesquels l'État attend les jeunes et que les jeunes ne le connaissent pas. Et c'est ce qui a été reproché à l'ancienne politique nationale de la jeunesse. Vous, aujourd'hui, est-ce que les moyens sont pris pour que la prochaine, celle qui sera réactualisée, soit vraiment vulgarisée, au point que les jeunes, surtout ceux des milieux ruraux, sachent concrètement qu'est-ce que c'est la politique nationale de la jeunesse et ce que ça contient.
Au fait, comme vous l'avez dit, on a entendu des reproches et comme vous l'avez dit aussi dans l'actualisation, nous sommes en train de remédier. Ça veut dire que nous prenons en compte les remarques des jeunes. Et je l'ai dit, bientôt, il y aura le partage et la pré-vulgarisation à Niamey, mais il y aura une mission terrain. Par exemple, si on prend la région de Niamey, nous avons les 5 arrondissements communaux. Et il y aura une mission, ça veut dire, et la mission, elle sera, les membres de la mission, ça va être bien sûr le ministère de la jeunesse, mais il y aura aussi le représentant des jeunes. Et nous allons au niveau de chaque commune pour vulgariser. Et ces jeunes, ça veut dire les présidents, par exemple, les jeunes de chaque arrondissement communal, va conduire, ça veut dire il va faire, on va commencer la vulgarisation, mais ils vont continuer. Et pour ce qui est de la vulgarisation, en tout cas, les moyens sont là, disponibles. Et aussi, nous allons vouloir impliquer les partenaires, les acteurs, ça veut dire tous ceux qui sont concernés. Et les premiers qui seront impliqués, c'est bien sûr les jeunes. Parce que nous avons entendu, comme l'a dit la présidente et aussi le représentant qui est là, ils ont dit qu'il y a une politique qui est là pour les jeunes, mais dont les jeunes ne connaissent même pas le contenu. Ça, nous avons entendu ça à Maradi quand on était parti pour l'actualisation. Et le ministère, parmi les recommandations, c'est que cette nouvelle politique, cette politique qui sera actualisée, va être vulgarisée. Et la vulgarisation, c'est les jeunes et certains donc responsables du ministère qui vont conduire cette vulgarisation.
Merci beaucoup. Les jeunes, et je dirais toujours sous la supervision, du ministère. Alors, je me tourne vers vous, Nana Fidarsi. Au Niger, faute de moyens financiers, certains jeunes se donnent malheureusement à des pratiques peu recommandables. On ne va pas revenir là-dessus ce soir. L'indépendance économique des jeunes est alors une priorité pour ceux et celles qui travaillent avec et pour les jeunes. Vous qui êtes jeune aujourd'hui, que pensez-vous ou bien quelle place vous pensez que la politique nationale de la jeunesse doit accorder à l'indépendance financière des jeunes?
De la nouvelle politique, j'aimerais que vous intégrez un système où les jeunes pourront facilement avoir accès aux stages et après au travail. Je m'explique. Nous avons des jeunes aujourd'hui. Étudier, c'est bien. Étudier jusqu'à la licence, au master. Mais malheureusement, ce n'est pas encourageant d'étudier, d'aller jusqu'à la licence, au master et qu'au finish, décrocher un simple stage arrive à être un très grand problème. C'est ce qui pousse les jeunes à faire des pratiques néfastes, comme vous venez de le dire. Je ne peux pas comprendre, une jeune fille peut se lever, par exemple, aujourd'hui, elle a une licence ou un master, mais elle n'arrive pas à décrocher un simple stage. Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse fait de cela? Quelles sont les perspectives que vous souhaitez engager pour que les jeunes puissent avoir facilement accès au moins au stage, au moins cela? Parce que c'est ce qui pousse beaucoup de jeunes filles à faire des choses pas du tout bien. Vous
Merci.
Le connaissez.
On va évoluer dans le débat. Sanoussi, je me retourne vers toi. Là, on parle de la place du pouvoir financier des jeunes. Alors, elle vient de toucher un problème sensible, l'accès au stage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des propositions ou bien vous avez des attentes par rapport à l'accès au stage, l'accès à l'emploi, l'accès à la terre, l'accès peut-être au cash pour démarrer un business pour ceux et celles qui sont à l'intérieur du pays? Est-ce que vous avez des attentes ou bien vous attendez le ministère sur ces différents points-là? Le ministère et pas que, le ministère et ses partenaires, bien sûr.
Par rapport à ces questions, on ne peut pas les résumer seulement au ministère en charge de la jeunesse. Il y a beaucoup, c'est au niveau, il faut parler même du gouvernement là. Je venais un peu revenir sur la sur la politique nationale de la jeunesse. Parce que tout à l'heure, on parle de l'ancienne. C'est elle qui est toujours en cours. Donc, c'est une autre qui va être faite et qui va être actuelle. Mais pour le moment, c'est elle qui tient. Et cette politique, au niveau de son axe 2, elle avait prévu l'insertion économique des jeunes. Maintenant, je pense que c'est bon que la CAPEJ puisse savoir quelles sont les initiatives portées par le ministère de la Jeunesse par rapport à l'insertion économique des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes? Le ministère, les autres ministères qui peuvent concourir.
Le ministère de l'économie, par exemple. De la formation professionnelle, par exemple.
Le ministère de la formation professionnelle. Tous ces ministères-là, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à l'insertion l'insertion économique? Il y a un autre volet, participation politique, participation à la vie sociale, économie politique des jeunes. Là, c'est au niveau de l'axe 4 de cette stratégie. Donc, il y avait beaucoup de belles choses, de très belles choses qui étaient écrites, mais qui ont été mises dans des tiroirs et tout ça là. Et moi, ma préoccupation, c'est que la politique dont on parle maintenant, il ne faut pas que ça soit qu'elle subisse le même sort que l'ancienne politique et qu'à un moment, on va revenir pour dire non, elle aussi, on va la réactualiser parce que j'ai l'impression que le ministère a un goût très prononcé pour les réactualisations. Par rapport à votre question, il y a deux à trois aspects sur les questions de l'emploi et tout ça. Il y a plusieurs paramètres. Par exemple, vous voyez, moi, je me sens très choqué si je vois que je constate qu'on a tellement minimisé les jeunes que les gens sont en train de se dire comment on trouve un stage. Vous trouvez pas ça? Qu'on dise que le combat qu'on doit porter, c'est pour avoir un stage. Quel sens cela doit avoir? Ce n'est pas ça. On est tellement dérouté. En fait, il y a...
Pour vous, le stage, c'est le minimum, en fait.
Non, c'est même pas une priorité. Ça ne doit même pas être une priorité pour les jeunes. Mais là, on les a amenés dans une situation où ils doivent se contenter de chercher le stage. Et même l'avoir, c'est un problème. Alors que les grandes réflexions qui doivent être portés par les organisations et tous ceux qui représentent les jeunes, c'est par rapport à l'employabilité des jeunes, par rapport à la participation politique des jeunes, pour que les jeunes soient aux instances de prise de décision, parce qu'ils doivent avoir les compétences. Moi, je ne milite pas pour un truc de quota ou non, mais plutôt qu'on crée les conditions pour que les jeunes participent et qu'ils démontrent les capacités à même gérer le gouvernement.
En conclusion, il faut qu'on rende les jeunes autonomes et compétitifs.
Voilà.
Il
faut qu'ils se rendent et que le gouvernement aussi doive assumer sa responsabilité. Le ministère de la Jeunesse doit jouer son rôle. Le Conseil national de la Jeunesse doit jouer son rôle.
Et les associations aussi doivent jouer leur rôle. Merci beaucoup. Le forum de ce soir porte sur la prise en compte des perspectives de la jeunesse dans les politiques publiques. Et comme invité, nous sommes avec M. Garba Abdoulaye, coordonnateur de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ. Nous sommes également avec Mme Mariama Oumar, directrice régionale de la jeunesse et du sport. Nous sommes également avec Tanimoun Ali Yerima Nana Fidaoussi, présidente nationale du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Nous sommes avec Sanoussi Abdoulaziz, directeur exécutif du MOGEDEC. À l'instant, nous parlons du pouvoir économique des jeunes nigériens. Le terme « entrepreneuriat des jeunes » est plus plébiscité lors des discours de politique générale et au niveau des différents partenaires techniques de l'État. Monsieur Garba, vous qui êtes aujourd'hui à la tête de la CAPEJ, le pouvoir économique des jeunes nigériens, comment est-ce que ce pouvoir économique impacte sur le comportement, la vie, l'épanouissement de ces jeunes-là? Parce que quand on parle de l'argent, les gens ont souvent tendance à dire que les jeunes aiment trop l'argent.
Là, vous savez, Voltaire disait « le travail nous débarrasse des vices ». Quand tu es oisif, il est évident, tout peut te passer par la tête.
Ouais.
Actuellement, tout comme cette étude sur la jeunesse, nous sommes en train de faire une étude sur l'efficacité du dispositif d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est-à-dire... pourquoi, malgré tous les appuis, les jeunes n'arrivent pas à entreprendre? Et là, vous serez surpris. Selon les premiers résultats qu'on a, l'équipe va affecter toutes les régions, le reste de la Berry qui vont faire la semaine prochaine, je crois, ou même cette semaine. 60% des problèmes, ce sont les jeunes eux-mêmes. Bien et sûr. Là aussi, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait le diagnostic. Mm-hmm. Il y a d'autres cadres. Les gens voient l'état, mais les gens vont te dire que notre contexte même culturel nous empêche d'entreprendre. Mm-hmm. Il est interdit d'être forgeron, il est interdit d'être boucher. Ouais. Donc, c'est-à-dire, les...
Et quand on l'univers. Parle de femmes, il y a certains travaux qui sont interdits aux femmes.
Voilà, ça, c'est les métiers. Tu ne veux pas voir un Nigérien. Les Nigériens qui ont commencé la restauration homme, c'est rare. Mm. C'est maintenant qu'il y en a. J'ai vu des Maoris qui font des galettes. Avant,
un bon pitch.
Donc, bah, ouais, ça, c'est. J'ai vu un camarade, un ami Touareg, qui a fait un restaurant. Mais durant 3 ans, il a résisté. Sinon, les gens disent, toi, tu es devenu, tu prépares à manger, tu vas à manger aux gens. Donc, en réalité, les gens voient l'état. Et c'est vrai, quand on parle de stage, et on vous reproche d'être attentiste. Mm-hmm. C'est dire, c'est un stage, quoi. Est-ce que vous savez que 80% des jeunes ne sont pas allés à l'école et qu'ils n'attendent pas des stages et qu'ils s'organisent pour s'insérer dans la vie socio-économique? Mais il y a une frange privilégiée qui est allée à l'école et qui finit les études et qui attend à être. Et... J'ai vu, vous aurez le film qu'on a eu dans l'étude jeunesse, une fille de la région de Zander qui a dit au Niger, c'est-à-dire cette injustice même, c'est-à-dire c'est comme si l'État s'occupe beaucoup plus de la jeunesse qui est allée à l'école. La jeunesse, et même cette jeunesse qui est allée à l'école, la jeunesse qui est dans les grands centres urbains. Donc, tous ces éléments. Moi, je suppose que la politique va prendre en compte pour dire que, attention, cette perception d'inéquité que certains jeunes estiment qu'ils sont maltraités par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'il faut corriger cela. Évidemment, comme vous le disiez, quand les gens parlent les jeunes, lorsque l'État amène un projet d'agriculture au village, c'est les jeunes qui travaillent. Donc, faites attention, il ne faut pas limiter le jeune au ministère de la jeunesse ou au ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, alors que 80% des appuis qui entrent pour dans l'épanouissement du jeune, c'est les autres ministères qui en charge de la production. Donc j'entends des fois les jeunes dire le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, on vous a donné 60 millions. Non, ce n'est pas le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes qui crée des emplois, mais qui c'est l'éveil entrepreneurial. Il y a une autre piste, il y a une autre
c'est
alternative.
C'est beaucoup plus l'orientation.
Exactement, de dire qu'il y a autre chose que de chercher le travail salarial. Mm-hmm. Parce que c'est ça. Parce que nous qui sommes allés à l'école, nous sommes beaucoup plus porté, et les jeunes le disent, c'est que c'est notre système éducatif, c'est-à-dire qui nous a déroutés. Et dans cette étude qui va sortir, et d'ailleurs je vais organiser les genres de débats avec les mêmes acteurs quand cette étude va sortir, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches pour l'entrepreneuriat, mais il y a des régions au Niger, et c'est pourquoi la politique doit tenir compte aussi. On ne peut pas traiter le jeune de Tillabéri de la même manière que le jeune de Maradi. Mm-hmm. De faire attention, parce qu'actuellement, on a des politiques, on a des actions, on traite les gens de la même manière. La politique doit dire que le jeune de Tillabéri ne réfléchit pas de la même manière que le jeune de Maradi. Mmh. Et à Tillabéri même, le jeune de Wallam ne réfléchit pas de la même manière que le jeune de Terra. Mmh. Donc, ça, c'est ce que la politique doit intégrer dans sa démarche pour pouvoir favoriser ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Parce que l'étude a démontré que vous dites qu'on ne vous écoute pas, les jeunes. Mmh. Et les anciens disent que vous êtes pressés et vous n'écoutez pas. Finalement, on est bloqué et c'est ça cette initiative que le ministère pilote de plus en plus sur le dialogue intergénérationnel au niveau même local, au niveau de communes, pour que les deux communiquent, sachent qu'est-ce que je dois faire. Parce que comme je le dis encore, je le répète, il y a des grandes responsabilités des jeunes pour que les jeunes réussissent eux-mêmes.
Merci beaucoup à vous, M. Garba. Ça rassure que vous dites cela et j'espère que pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, ce forum vous sera utile. On reste dans l'économie, madame. Dans l'économie nigérienne, le secteur informel est fortement développé, ce qui favorise par ailleurs ce que j'appellerais une économie de débrouillardise. Comment la politique nationale de la jeunesse, qui est en train justement d'être réactualisée, prévoit d'accompagner ces jeunes qui sont justement dans l'économie informelle à se formaliser? Parce que, comme l'a dit M. Garba, on a l'impression qu'on a deux jeunesses. Une jeunesse civilisée des grandes villes qui a accès à tout ce qui est bancarisation et tout, et une jeunesse laissée pour compte qui est dans les milieux ruraux, qui est dans la débrouille. Et pourtant, ceux qui sont dans les milieux ruraux sont plus nombreux que ceux des villes.
En fait, je voulais réagir par rapport à ma jeune fille qui parle de il y a un problème de stage. Et comme l'a dit M. Garba, les jeunes attendent tout de l'État. Ça veut dire qu'on ne parle pas, comme il a dit, de l'auto-emploi, de chercher. On a l'impression que vous ne parlez que de ces jeunes qui sont au niveau de la ville, qui ont été à l'école. Et la plus grande partie, c'est des jeunes qui sont dans les zones rurales et qui sont là, vraiment, eux-mêmes, on doit tenir compte de leurs besoins. Et par rapport à l'intégration des jeunes dans le circuit, dans la politique que le ministère est en train d'actualiser avec les partenaires, il y a un programme stratégique qui est l'intégration des jeunes dans le circuit économique. Ouais. Et par rapport à ça, on a décliné ça en produits, en actions et comment aider. Ça veut dire que le ministère, il a l'habitude de former des jeunes en entrepreneuriat et aussi d'aider ces jeunes, de les accompagner. Donc, comment, si j'ai une affaire, comment la conduire, comment l'affaire doit être, par exemple, j'ai un projet, comment je dois conduire le projet, comment je dois vraiment pérenniser le projet pour qu'il soit viable.
Et surtout, je suis déjà en train de gérer une petite boutique.
Voilà,
comment je veux cela.
Mais vous oubliez une chose, comme l'a dit M. Karba, la jeunesse, elle est transversale. Elle est prise en charge par plusieurs ministères. Peut-être le ministère de la Jeunesse et des Sports, il a un regard sur la jeunesse. Mais il travaille avec beaucoup de ministères. Le ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes, par exemple, de l'Emploi, par exemple, le ministère de la Population. Ça veut dire qu'on a beaucoup de ministères où le ministère de la Jeunesse se trouve, par exemple, dans des communautés interministérielles où la question de la jeunesse, elle est là. Et que chacun, en fonction, par exemple, vraiment de son rôle, il prend en charge. Et quand ça dépasse, c'est l'autre qui prend en charge la question. Ça veut dire que la jeunesse, c'est pratiquement beaucoup de ministères qui prennent en charge. Je me dis que comment le jeune doit être accompagné quand il a un projet ou bien quand il est déjà dans le circuit économique. Ça veut dire que les gens, vous savez, parfois, ils méconnaissent même certaines institutions qui peuvent les aider. Et ils ne viennent pas chercher l'information.
Et surtout, ils ne cherchent pas l'information là où il le faut.
Là où il le faut. Et on veut du tout cuit. Même si on a l'impression, on a beaucoup de structures qui militent, ils sont dans des associations, mais ils attendent toujours qu'est-ce que l'État a fait. Mais l'État, si l'État a créé ces structures, c'est que quand l'État est là, c'est que ces structures doivent aussi accompagner.
Bien sûr. Parce que ces structures doivent accompagner, on doit leur donner de la parole ce soir. Alors, Nana, je me tourne vers toi. Face aux réalités religieuses et communautaires, force est de constater que les jeunes, d'une manière générale, les jeunes filles surtout, sont fréquemment confrontées à des difficultés particulières liées en grande partie aux pesanteurs socio-culturelles. Et là, l'État est presque impuissant pour régler des problèmes socio-culturels qui sont beaucoup plus liés au changement de mentalité. Vous qui êtes aujourd'hui des jeunes qui travaillent avec cette nouvelle génération, comment vous travaillez sur ces aspects avec vos membres d'associations, ces jeunes-là que vous rencontrez, pour que ces jeunes vraiment puissent accompagner les structures de l'État?
Exactement. Je vais revenir sur ce que M. Garba a dit tout à l'heure. Pour moi, il faudrait promouvoir les dialogues intergénérationnels. Parce que nous avons des coutumes socio-culturelles ici au Niger. Nous avons plusieurs ethnies et chaque famille a sa façon de voir les choses. Nous avons des jeunes filles qui ont du potentiel, qui aimeraient apprendre. Elles sont beaucoup, qui aimeraient venir apprendre, mais il y a un problème et ce problème se situe où? Au niveau des familles. Nous avons des parents qui empêchent à leurs filles de sortir et venir apprendre. Pourquoi? Parce que le parent se dit que la fille, elle doit forcément rester à la maison, elle doit cuisiner, faire le ménage. La fille ne doit pas trop parler, elle ne doit pas sortir. Tout cela, c'est des problèmes auxquels nous faisons face, surtout nous qui sommes très proches des enfants et des jeunes. Et pour cela, nous aimerions beaucoup que ceux qui sont ici présents et ceux qui nous suivent puissent faire une petite sensibilisation au niveau des parents, des grands-parents, au niveau de la famille, et aussi pour voir le dialogue intergénérationnel. Nous avons des jeunes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le jeune de Tillabéri, Maradi, Dosso n'ont pas les mêmes mots. Nous travaillons, nous avons des bureaux dans toutes les régions dans toutes les 8 régions du Niger. Et pratiquement, nous avons le même problème au niveau de nos bureaux parce que les filles aimeraient venir apprendre, mais il y a les parents qui causent problème, qui se disent que la fille doit rester à la maison, elle ne doit pas sortir. Tout cela aussi pousse les jeunes à aimer la facilité. Je m'explique. Je n'ai pas l'opportunité de sortir et apprendre. Je suis là, je grandis à la maison. Au niveau, à un certain âge, 22 ans, 23 ans, il y a aussi cette pesanteur sociale, tu dois te marier. Une fille qui déjà qui n'est pas sortie, qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas appris à vivre en société, a beaucoup de problèmes. Parce que pour elle, je suis restée toutes ces années à la maison, on m'a pris en charge. Pourquoi je vais sortir travailler? Donc elle s'adonne à l'amour de la facilité. Qu'est-ce que j'appelle l'amour de la facilité? Monsieur Garbe vient de le dire tout à l'heure, le mot des jeunes, c'est aussi les jeunes. Nous ne voulons pas nous ménager et apprendre, nous ne voulons pas nous ménager, c'est-à-dire nous forcer à apprendre et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Il y a tout ce problème et je me dis que pour régler tous ces problèmes, il faut promouvoir le dialogue intergénérationnel.
Est-ce que vous avez déjà commencé à le promouvoir ou bien vous attendez l'État?
Bien sûr, nous l'avons commencé. Je voulais commencer tout à l'heure dans la salle avant même qu'on ait commencé.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Par rapport à ce qu'elle a dit, j'ai une anecdote à dire. Parce qu'il y a peut-être en février ou en mars, il y a une jeune fille qui m'a approchée. Elle, son papa, au fait, il est prêt à payer la scolarité. Tu as la formation jusqu'à ce que tu aies le diplôme. Mais il est contre que tu ailles travailler. Que le stage, que tout, il est contre. Et quand elle est venue me voir, elle a un master. Elle dit, mon papa, il a payé jusqu'au master. Mais maintenant, il me dit, attends, quand tu auras quelqu'un qui va venir te marier, si lui, il accepte que tu vas travailler, tu peux aller travailler. Et je vous parle du Niamey. Ça veut dire que c'est la capitale. Ça veut dire, et c'est une fille qui a grandi à Niamey, née à Niamey, grandi à Niamey, qui a un parent, et que le parent, il est prêt à payer la scolarité.
Il a déjà payé la scolarité jusqu'au master.
Mais elle a le master. Mmh. Mais elle me dit, mon papa a dit, c'est bon, je fais mon devoir, je l'ai fait. Maintenant, c'est le mari, c'est celui qui va te prendre, qui, si lui, il accepte que tu ailles travailler, il est libre. Mais moi, je fais juste la formation et tu restes à la maison. Et elle me dit, ça fait pratiquement un an que je suis là. Est-ce que tu peux parler à mon papa? Parce que ça veut dire que c'est une famille que je... Oui. Quand j'étais partie le voir, elle me dit, tu sais, est-ce que je l'ai empêché d'aller à l'école? Est-ce qu'elle ne sait pas lire? Est-ce qu'elle ne sait pas écrire? Est-ce qu'elle ne sait pas... Il a commencé à dire, est-ce que j'ai fini? Elle dit, prie pour elle, qu'elle ait un mari le plus rapidement possible. Et comme ça, quand il va venir, le problème sera résolu. Ça veut dire son problème, c'est quand son mari, quand elle aura un mari, sûrement que le mari, là, il me dit en langue Hausa, il dit, « Maza nyanzona, suna son ma tante société su yaiki. Ta sa, ya barta te yaiki. » Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire pour lui, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est quand
il aura... Le reste continue dans le foyer.
Oui, c'est pour vous dire que vraiment, c'est vrai, il y a des personnes, quand vous les voyez, vous pensez que ça n'existe pas. Mais à Niamey, même ces mentalités existent.
Mais est-ce que vous, aujourd'hui, d'une manière globale, est-ce que la politique prévoit des actions pour pouvoir sensibiliser l'opinion par rapport à ces pratiques et surtout leurs conséquences?
Oui, nous avons, par exemple, comme je l'ai dit, un programme même dans l'ancien, la protection des jeunes. Et dans la protection des jeunes, nous, tout ce qui peut freiner, par exemple, à l'épanouissement des jeunes, nous essayons de trouver des solutions. Et dans la recherche de solutions, il y a aussi des actions comme faire des plaidoyers au niveau, par exemple, des leaders, pour que vraiment ils sensibilisent les parents, pour dire qu'il y a certaines pratiques qui sont vraiment néfastes, même si c'est des pratiques culturelles, mais c'est des pratiques qui sont néfastes. Et vraiment, on le fait. Et vous savez, comme la culture, c'est ancré. C'est ancré dans nos sociétés. Et pour vraiment changer la mentalité, il faut de la patience.
Et il faut du temps.
Et nous sommes complices. et le temps et nous sommes complices.
D'accord.
Et il n'y a aucune fille qui va aller dénoncer ses parents. Malgré qu'il y a l'UNICEF, le droit des enfants, au Niger, aucune fille, aucun enfant va
l'éducation,
aller
l'éducation africaine.
Donc, ça va être vraiment long.
L'éducation africaine, elle est comme telle. Et on l'aime comme celle-là. Nous sommes presque à la fin, mais on ne va pas terminer ce débat quand même sans demander quel rôle peuvent jouer les associations de jeunes pour la réussite des politiques publiques mises en place, surtout pour les jeunes.
Les associations sont censées compléter l'État dans ses actions. C'est l'État qui est là, qui doit faire tout. Maintenant, les associations, leur rôle, c'est de compléter. Tous ceux qui pensent qu'ils sont dans des associations pour faire des choses contre l'État ou bien différentes de l'État, ça ne peut pas exister. Toutes les associations qui sont autorisées, c'est pour faire des actions qui sont complémentaires aux programmes et aux stratégies, aux planifications publiques. Pour ce sens, pour ceux qui sont du MOJEDEC, MOJEDEC, c'est le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, nous avons développé plusieurs initiatives pour l'éveil des jeunes en vue de leur participation. Même quand il s'agissait des élections de 2020-2021, nous avons fait la mobilisation des jeunes pour qu'ils s'enrôlent en tant qu'électeurs et aussi pour qu'ils soient candidats. Nous avons sensibilisé, nous avons fait des formations des jeunes sur comment constituer un dossier, comment pour être conseiller au niveau local et tout. Et nous avons identifié des jeunes de différents partis politiques et il y a même d'autres qui sont élus conseillers. À part ça, nous vivons une situation d'insécurité. Et pour cela, nous avons plusieurs initiatives de sensibilisation des jeunes pour la prévention de cette insécurité. Nous travaillons à améliorer les relations de confiance et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité.
Beaucoup de choses que vous faites, tout
jeunes.
Simplement.
Et nous travaillons aussi avec, nous avons pris le soin de faire la différence, par exemple, pour le cas de Tillaberi, où il y a une insécurité qui se développe, parce que naturellement, cette injustice, le sentiment d'injustice dont certains jeunes se prévalent, la pauvreté crée un pont entre ces jeunes et les autres. Ils pensent qu'ils sont abandonnés et tout. Et nous nous sommes dit que nous avons le devoir en tant qu'organisation.
Et déjà, on est malheureusement à la fin de ce débat. Et nous ne pouvons pas quitter cette émission sans pour autant justement avoir, que ce soit des conseils ou des recommandations. Je vous donne 30 secondes pour le
30
faire.
Secondes. Moi, mon conseil, c'est vis-à-vis des organisations des jeunes. Toutes les analyses que nous faisons et que vous trouvez, il y a un problème de confiance de ces jeunes dans leur organisation. Ça, j'étais surpris de le voir quand ils parlent de problèmes d'inéquité de l'État. Quand on dit même vos organisations sont là, ils vous disent non, les organisations pour la plupart font pire. Donc, le conseil, travaillez l'image, produisez des résultats.
Et surtout, soyez vrai.
Va, exactement.
Soyez vrai. Voilà. Alors, madame, un conseil à l'endroit de ceux et celles qui nous écoutent, surtout ces jeunes.
Donc, oui, comme l'a dit Garba, je dirais que nous, au ministère de la Jeunesse, l'utilité des associations de jeunes ne se pose pas. On sait, on travaille avec eux. Mais nous voulons aussi que ces jeunes qui militent dans les associations, que vraiment, quand ils sont sur le terrain, qu'ils fédèrent. Ça veut dire que toute cette jeunesse doit être, qu'ils soient avec toute cette jeunesse. Et qu'on sache que même les jeunes sachent ce qu'ils font.
Merci beaucoup. Que des jeunes sachent ce qu'ils font. C'est avec cette phrase qu'on va se dire au revoir, chers amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, merci d'être là du début jusqu'à la fin. Le forum de ce soir a été possible grâce à la complicité de Issa à la technique et la vidéo gérée par Mister Seini. C'est toujours avec plaisir qu'on vous sert sur Studio Kalangou. Vous pouvez nous réécouter à travers le podcast disponible sur le site internet et tous nos différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.